Donc on commence le chapitre 13, on s'arrête au verset 12 inclus. Voilà, voilà.
Brigitte, tu peux lire ?
Voilà, merci.
Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Siméon appelé Niger, et Lucius de Cyrène, Manaël, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit : Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait aussi avec eux Jean, qui était leur assistant. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent là un magicien, soi-disant prophète. C'était un juif du nom de Bar-Jésus qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit : Toi qui es pétri de ruses et de manigances, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de déformer la rectitude des voies du Seigneur ? Voici du reste que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle et jusqu'à nouvel ordre, tu ne verras même plus le soleil. À l'instant même, l'obscurité et les ténèbres l'envahirent et il tourna en rond à la recherche d'un guide. Voyant ce qui s'était passé, le proconsul devint croyant, car la doctrine du Seigneur l'avait vivement impressionné.
Très bien, très bien. Un court petit texte qui semble être très facile et touristique.
Et qui semble.
Qui demande quand même quelques commentaires. Ok, donc, concentrons-nous d'abord sur Antioche. Antioche de Syrie, puisque en peu de temps, on verra un autre Antioche en Pisidie. Que s'y est-il passé ? Après que tout le monde soit revenu, en tout cas, à Antioche. Oui, peut-être que je devrais introduire un tout petit peu. Donc, rappelons-nous qu'on a assisté à la fin, c'est le cas de le dire, la fin d'Hérode Agrippa Ier, qui avait la volonté de décimer les leaders de l'Église. Il en est mort, le pauvre, et on nous dit que l'Église a gagné en nombre et en puissance, hein, non seulement à Jérusalem et en Judée, mais aussi dans les territoires païens. Et dans le passage que nous avons sous les yeux, on retourne à Antioche, où la communauté locale va être appelée, par l'Esprit Saint en tout cas, à ouvrir d'autres fronts dans le monde païen, du bassin méditerranéen en particulier. Et la première étape, c'est celle qui nous passionnera ce soir, c'est celle de Chypre, première étape de cette évangélisation. Et à partir de ce chapitre, on quitte Pierre, dommage, pour suivre les pas de l'apôtre des gentils, celui qui sera très prochainement, comme on l'a vu, appelé Paul, jusqu'à la fin du livre, évidemment. Voilà, voilà. Donc, que se passe-t-il à Antioche ? Un jour de culte.
On a un délai entre ce que tu viens de dire et ceci. On a une idée de délai.
Bah, le temps du retour, je suppose. Si tu reprends le verset 25, c'était quand même le temps du retour de Jérusalem à Antioche, en nous souvenant qu'il y avait quand même 700 kilomètres. Qu'on le fasse par route ou par mer, c'était quand même un petit voyage. Donc voilà, il s'est passé un certain temps avant qu'il y ait ce culte à Antioche. Et puis on ne sait pas si c'est directement après qu'il soit rentré qu'il y a eu cette manifestation. Mais qu'est-ce qu'on apprend sur cette église, en fait ?
Il y avait des prophètes et des docteurs.
Parmi lesquels on nous en cite quelques-uns, cinq, hein, si j'ai bon souvenir. Donc, vous vous rappelez qu'on avait vu une fois, je ne sais plus à quelle occasion, que les prophètes, c'était un petit peu des exhortateurs, des consolateurs, des encourageurs. Et les docteurs, c'est plutôt les enseignants, ceux qui sont bien ancrés dans les écritures juives, évidemment, et qui peuvent les commenter. Donc il y a deux catégories, il semblerait, à Antioche, de personnages importants, auxquels il faut sans doute ajouter des diacres, hein, qui ne sont pas nommés ici, puisqu'en fait, Luc vise les enseignants, globalement, soit ceux qui exhortent, soit ceux qui étudient le texte avec les uns et les autres. Et parmi tous ces hommes, il nous en cite cinq, qui sont peut-être les deux à la fois. Ça, on l'ignore, puisque Luc ne nous le dit pas. En tout cas, parmi les cinq qui sont là, il y en a deux dont on sait qu'ils sont enseignants. C'est ceux qui ont fondé l'Église. Donc Barnabas et Saul, par conséquent. Alors les autres, peut-être pas, on verra. Alors, que sait-on sur ces personnages ? Il y a quelque chose qui vous a frappé dans la description des personnes.
Il a un compagnon d'enfance.
Oui, ça, c'est pas rien. Bon, il s'agit d'Hérode Antipas, c'est-à-dire celui qui a coupé la tête à Jean-Baptiste. Voilà. Apparemment, ils avaient l'habitude de couper la tête. Hein, je suis hérodien. Ouais. Donc, c'est pas un petit détail, parce que le grec parle même d'une très grande proximité, puisque on pourrait presque traduire frère de lait. Donc, éduqués ensemble, si éduqués tu veux, ensemble, avec le tétrarque, hein, qui était évidemment un gosse à l'époque. Mais donc ça veut dire que cet homme-là, juif, parce qu'il a un nom juif, c'est Menahem en fait en hébreu, cet homme-là a été élevé à la cour impériale par conséquent. Donc il connaît bien les Romains, le système et la culture, etc. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les autres, par exemple ? Bon, il y en a deux qu'on connaît. Hein.
Siméon, surnommé le Noir.
Oui. Alors là, on ne sait pas s'il est surnommé le Noir à cause de son teint basané, ou si... parce que c'est un nom très latin, en fait. Une sorte de surnom. Donc c'est un Romain. Était-il d'Italie, en sachant qu'en Italie, il y a quand même des gens très basanés. Ou était-il plutôt alors d'Afrique, c'est-à-dire de la côte cyrénéenne, par exemple, on n'en sait rien. Et puis il y a un certain Lucius, lui on sait d'où il vient, il est justement de la Libye actuelle, un Africain du Nord, avec un prénom romain, par conséquent, mais qui est juif quand même. Manahen, dont on vient de parler, et puis bien sûr Saul. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention... Mais celui qui ouvre la liste, c'est le responsable, oui. Hein, le fondateur, l'envoyé des apôtres de Jérusalem à Antioche expressément. Et le dernier, le petit dernier, c'est l'avorton. C'est Saul qui a été appelé par Barnabas à venir travailler à Antioche sous l'aile de Barnabas qu'il avait déjà introduit d'une certaine manière auprès des apôtres à Jérusalem. Donc Saul est à sa place, je dirais, comme le petit dernier, le dernier arrivé. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ?
J'ai vu que Lucius de Cyrène pourrait être un parent de Paul.
Oui, c'est possible.
Parce que dans Romains 16, 21...
Romains 16, oui.
Romains 16, 21, il remet les salutations de Lucius et il dit que... C'est un parent.
Ok. Et donc, évidemment, on n'en a pas la preuve. Parce que des Lucius, il devait y en avoir des tonnes. Mais c'est probable. En tout cas, il faut le tenir comme probable que ça peut être quelqu'un de la famille de Paul. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de découvrir qu'au fond, tous ces hommes, tous ceux qui sont cités là sont issus des territoires païens. Il n'y en a pas un qui soit vraiment judéen, ou pas un seul. Comme si les cinq dont il est question et les deux qui vont être envoyés, par exemple, sont destinés à œuvrer dans les territoires païens. Peut-être parce qu'ils en ont la connaissance, la culture, ils connaissent plusieurs langues, sont capables de se débrouiller partout. Certains sont romains, comme Saul. Voilà, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc je trouve ça intéressant aussi de regarder en relief comment Dieu choisit ses équipiers, finalement. Pas au hasard. Il y a vraiment quelque chose de très construit. Tous équipés, en tout cas, pour transmettre et contextualiser la foi sous-entendue messianique, auprès des gentils, auprès des païens qui n'en connaissent rien. Voilà. Mais eux, par contre, maîtrisent la culture des païens. Et voilà qu'on nous raconte qu'un jour, si on est d'accord, verset 2, un jour où ils célèbrent le culte, il se passe quelque chose de particulier. Alors je dis tout de suite, culte, c'est le mot liturgia en grec, qui fait référence au culte au temple à Jérusalem, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans le cadre d'un culte. Hein, voilà. Bon, il n'existait pas un mot culte réellement, quoi. Un culte spécial, en tout cas, puisqu'il est dit quoi ?
Qui jeûnait.
Voilà. Déjà, on n'a pas coutume de jeûner nécessairement chaque dimanche. Hein. Donc voilà, un culte un peu spécial. On ne sait pas trop pourquoi, mais on s'en doute après avoir lu le reste du texte. Il jeûne, il prie, dit le texte, et puis il se passe un phénomène. C'est que sans doute un des prophètes, il y en a plusieurs apparemment, un des prophètes, via la révélation de l'Esprit-Saint, leur dit qu'il faut réserver deux hommes parmi tous, Barnabas et Saul. Alors, Barnabas, ça doit quand même faire tirailler un peu les cœurs, puisque c'est quand même le père carrément d'Antioche, hein, celui qui a lancé toute la fondation biblique de l'Église locale, puis qui a fait venir Saul, etc. Donc, les deux plus importants de l'Église vont partir. Sont conviés à partir pour une œuvre, hein, c'est le texte qui le dit, l'œuvre à laquelle ils sont appelés, et nous on sait évidemment, puisqu'on a lu les actes, qu'il s'agit de la mission commune de Barnabas et Saul auprès des païens. Mais on se rend donc compte, c'est bien une mission qui émane d'une révélation, c'est pas une mission qui émane du bon vouloir de chacun. Je décide de partir évangéliser à droite, à gauche. Non, non. Eux, ils étaient bien là. Ils avaient une mission d'y rester. C'était clair qu'ils avaient leur responsabilité. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit « Ah non, là, on ne joue plus à ça. On va faire autre chose. » Et donc, on les envoie. Et d'après vous, on les envoie comment ?
Imposé les mains. Et en jeûne.
Ok. Mais donc, dans ce court verset 3, on se rend compte que ça a été extrêmement rapide. Donc, à partir du moment où il y a eu la révélation de l'Esprit-Saint, on ne tergiverse pas. On termine en continuant de jeûner, en priant vraisemblablement. On peut imaginer pour ceux qui partent. Jeûner, c'était quand même, dans le milieu judaïsant, une marque souvent d'affliction ou de repentance, ou encore la recherche d'une révélation divine particulière. Donc se mettre devant Dieu pour attendre quelque chose que Dieu susciterait, inviterait, conseillerait, etc. Et donc on a là un peu tout le déroulement. Et puis finalement, l'Église locale, et c'est avec ça que ça se termine, impose les mains, donc les responsables vraisemblablement, hein, impose les mains, qui est un geste. Alors ici, on peut dire que c'est un geste de rupture, par exemple. C'est-à-dire, voilà, les deux personnes qui sont les pères de l'Église vont disparaître. Rupture de leur mission à Antioche et début d'une nouvelle tâche particulière auprès des païens dont ils ne connaissent rien. Parce qu'apparemment, l'Esprit-Saint ne leur dit pas ce qu'ils vont devoir faire, ni où ils vont. Etc. En tout cas, on peut dire qu'imposer les mains, c'est une manière de reconnaître la mise à part, l'appel et l'envoi en mission immédiat. puisqu'on nous rappelle que c'est une manière aussi de prendre congé, d'être solidaire avec eux. Et manifestement, si on lit le verset 4 dans la foulée, on se rend compte que le départ a été immédiat. Donc là, on n'est pas en train de dire, est-ce qu'on a le pognon pour partir? Est-ce qu'on a de quoi manger? Est-ce que dans combien de temps part-on? Est-ce qu'on peut partir dans un mois? Non. On nous a appelés, boum, tout se prépare et on s'en va. En tout cas, on a en grec une impression de continuité. Il n'y a pas d'arrêt, quoi. On sort du culte, on descend à Séleucie et on prend un bateau. Le premier qui arrive, c'est le bon. Voilà. Alors, on ne sait pas pour quelle raison Chypre. Je ne sais pas si vous avez une idée. En tout cas, voilà, eux, ils font quand même, soit en descendant le fleuve qui descend d'Antioche vers la mer, il y a quand même pas loin de 30 km, hein, et à pied 32, si j'ai bon souvenir. Donc voilà, ils descendent au port qui sert de port à Antioche, qui est beaucoup plus loin dans les terres, si vous voulez. Et une fois arrivés au port, il semble qu'ils prennent le premier bateau qui s'en va, qui est celui qui part pour Chypre. Alors maintenant, est-ce qu'entre-temps, dans la fin de ce culte, l'Esprit-Saint a été plus directif? Peut-être, mais on n'en sait rien. Donc on ne va pas faire trop d'inventions par rapport à tout ça. En tout cas, ils sont mandatés pour partir, même s'ils n'en connaissent pas les charges précises et les lieux vers lesquels ils se rendent compte, ils vont devoir se rendre. Nous, on sait, parce qu'on connaît les Actes, et si vous avez fait le calcul, qu'ils vont parcourir dans ce premier voyage 2164 kilomètres. Une grande partie en bateau et le reste à pied, à cheval, je ne sais pas trop comment. C'est quand même énorme. Pour l'époque, je ne sais pas si on se rend compte, même s'il y avait des voies romaines impeccables, c'est quand même pas rien. Donc c'est un premier grand voyage missionnaire. Ils prennent donc un bateau pour Salamine. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il y a un atlas là, mais j'ai aussi imprimé une carte pour ceux qui veulent. On se rend compte qu'ils partent de la côte vers Chypre pour le premier port. Salamine. Qui est quand même à 210 km. Hein. L'air de rien. Donc, 210 km en bateau. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la voile. Mais même à raison d'une vitesse de 6 nœuds, par exemple, ce qui est quand même pas mal, 6 nœuds, il faut quand même environ une vingtaine d'heures pour faire ces 210 km, quoi. Quasi une journée. Voilà.
C'est entre
Séleucie et Salamine à l'est. À l'est.
Et Salamine, oui, c'est ça. Donc,
le premier port.
Ils arrivent ici. Et puis ils vont aller. Combien ça dit? Non, mais. Donc
210 à peu près. Bon, ça dépend des vents, ça dépend d'un tas de choses. Ça peut être plus long en fonction.
Ouais.
En plus, il y a une période bien précise pour faire ce trajet parce que manifestement, il y a toute une période. On ne peut naviguer vers Chypre que à l'époque, que de mars-avril à octobre-novembre. Donc on sait plus ou moins quand a eu lieu ce voyage, si on veut, de cette période-là, pendant cette période, les 6 mois à peu près de l'année, où c'est favorable au niveau des vents. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Bon, alors on peut, comme je le disais tout à l'heure, se demander si l'Esprit-Saint a été plus clair, plus directif, ou si naturellement, ils sont allés vers Chypre avec le premier bateau qui était là, parce que Chypre est un pays connu pour Barnabas. Barnabas est originaire de Chypre et peut-être que lui avait l'intention de développer la première mission dans son propre pays, manifestement. Donc on peut se dire que ça, c'est une des explications, d'autant que Barnabas sait qu'il y a de nombreux juifs à Chypre, de grosses colonies juives à Chypre. Et qu'il y a déjà, rappelez-vous, chapitre 11, verset 19, il y avait déjà des communautés messianiques, puisque les Chypriotes ont envoyé des gens évangéliser Antioche, vous vous rappelez. Donc, lui, en plus, qui est originaire de là-bas, a sans doute de la famille. Tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis, bon, voilà, ils avaient l'intention, tous les deux, puisque Paul avait été appelé un apostolat pour les païens, de prêcher aux païens. Donc ils savent qu'à Chypre, il y a plus que des juifs, il y a les autres. Il y a les chypriotes, si vous voulez, et les romains, parce qu'il y a aussi des romains. Mais ce qui peut peut-être aussi jouer, c'est que Chypre, c'est un peu la porte d'accès, par mer en tout cas, à la Pamphylie. Donc si on regarde sur la carte, et que vous remontez la petite flèche qui va vers les côtes au nord, la Pamphylie est le premier territoire le plus proche de Chypre en bateau. C'est-à-dire l'Asie mineure pour l'époque, hein, ça s'appelle comme ça. Et puis effectivement, on s'aperçoit que c'est bien l'étape suivante. Hein, voilà, on ne sait pas si on n'a pas lu, mais voilà. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'à Antioche, si vous vous en souvenez, chapitre 11, verset 20, il y a des chrétiens d'origine messianique, chypriotes, qui avaient constitué cette église d'Antioche et qui étaient sans doute demandeurs qu'on y aille, qu'on aille renforcer les églises messianiques et prêcher aux juifs et prêcher aux païens. Tout ça semble un juste retour des choses, si vous voulez, que de s'y rendre, ne serait-ce que pour remercier ceux qui ont été à l'initiative, avant même Barnabas. Hein. C'est les chypriotes qui sont à l'initiative de la naissance d'Antioche. Alors, on est plus ou moins au verset 5, je ne sais plus à quoi ça correspond dans les questions. Alors, que font-ils à Salamine, voilà, dans ce grand port, hein, une ville portuaire, hein.
Il y a dans sa parole, hein, voilà. Dans la synagogue.
Alors, et quelque chose vous interpelle, là? Nous, on s'attendait à ce qu'ils prêchent aux païens, mais apparemment...
Il va dans les synagogues.
Alors, on commence par les synagogues.
Oui.
Donc, on s'aperçoit que Salamine, qui est une ville importante, à plusieurs synagogues, pas qu'une. Et quand on parle de synagogue, voyez bien ce qui est marqué dans le texte. Quelle synagogue ?
Des
juifs, sous-entendu, des judaïsants, pas des messianiques. Donc ils vont premièrement chez les juifs, ceux qui ne sont pas encore messianiques, pour prêcher la parole. C'est quand même dingue quand on y pense, quoi. Après, Luc passe sous silence ce qu'ils ont fait, d'autres. Mais on estime, effectivement, la plupart des commentateurs diront... Bah, s'ils ont prêché aux juifs, ils ont prêché aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont aussi consolidé les communautés messianiques et vraisemblablement prêché à des païens avant de partir.
Mais un peu partout, c'est pas comme ça qu'ils feront.
Exactement. Et c'est comme ça que ça va devenir dans chaque voyage. On le verra d'ailleurs dans la suite du texte, hein, quand on fera le reste. D'ailleurs, Paul va appliquer cette méthode tout le temps. Commencer par les synagogues judaïsantes, s'occuper des messianiques s'il y en a, et prêcher aux païens. Mais priorité aux juifs quand même, sous-entendu non messianique. Et puis tout d'un coup, on a une info qu'on n'avait pas du tout au moment du départ.
Oui,
il y a Jean, le fameux Jean dont on a déjà parlé.
Jean-Marc ?
Oui, exactement. Toujours ce cousin de Barnabas qu'on avait vu au chapitre 12. Hein. Et on nous dit, le grec dit qu'en tout cas, il est assistant, auxiliaire, je ne sais pas trop comment il faudrait le traduire. Donc, il n'est pas là pour être son propre maître, il est sous la coupe des deux, de Barnabas, son cousin, et de Saul, comme une sorte de, on va dire, de stage formatif auprès des deux grands docteurs de l'église d'Antioche. Pratique très courante dans le judaïsme, hein, avoir des disciples, emmener des gens avec soi, etc. Mais c'est sans doute aussi et surtout parce que ce fameux Jean est un des seuls témoins oculaires des évangiles. Voilà, voilà. Lui, il a vécu des choses avec Jésus. Il a vu des choses avec Jésus. Et donc, c'est un peu cet auxiliaire, celui qui vient accréditer, d'une certaine manière, les prédications de Barnabas et Saul, qui, eux, n'ont jamais été témoins oculaires des événements à Jérusalem.
Et donc Jean-Marc, comment sait-on qu'il a été témoin de Jésus ?
Alors, est-ce qu'on se souvient de ce qu'on avait vu ?
Celui qui s'est suivi, qui s'est sauvé, non ?
Oui, c'est cela, exactement.
C'est le tout nu.
Donc, c'est le tout nu du chapitre 12.
C'est-à-dire
l'auteur de l'évangile de Jean.
C'est l'auteur de l'évangile de Jean.
Non, ou de l'évangile de Marc.
Non,
de Jean. De Jean. Ah oui. Attends, mais tu me fais douter maintenant.
C'est compliqué avec plusieurs
noms. Non, Jean-Marc, c'est l'évangile de Marc.
C'est ça, voilà.
On l'avait vu quelque part. Hein.
Chapitre 12.
On l'a d'abord vu au verset 25. Mais il y a l'histoire.
12 et 12-25.
Avec la mère, Marie, qui accueille Pierre,
La réunion chez Marie.
Marie,
qui était la mère de ce Jean-Marc, justement.
Ah, très bien, oui, c'est ça.
Et on avait vu que c'était une famille de prêtres, en fait, sacerdotales. Hein. C'est pas n'importe quelle famille. Le côté un peu huppé de Jérusalem, quoi. Bon, voilà, tu as raison. Maintenant, je retombe sur mes pattes. On sait qu'ils ont fait ce travail.
Verset 12, de 12.
C'est ça.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
Alors, acte 12-12.
Oui, acte 12-12 et 12-25, c'est les deux références qu'on a. Et je voulais encore ajouter, auxiliaire ne veut pas dire moindre. Parce que manifestement, il prêche et il baptise s'il y a des conversions. Voilà. Donc ce n'est pas simplement... Je fais la popote pour vous et puis vous allez prêcher. Il est dans le bain. Un peu comme quand nous, on était jeunes pasteurs, on nous foutait un plus âgé qui avait de l'expérience et qui pouvait nous conseiller sur ce qu'on faisait. Ouais.
Et ça, c'est le terme que tu as, toi, là. Parce que moi, j'ai serviteur dans la pays.
Oui, mais c'est la même chose en grec. Hein.
Ah ouais.
Serviteur ne veut pas simplement dire domestique.
Oui, c'est ça.
C'est au sens très large, aidant, si tu veux.
Oui. J'ai le mot aide, moi.
Et c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, qu'un jeune homme le suivait et l'encadra sur le corps.
Exactement. Fuyant vers sa maison, vraisemblablement, aux grandes dames de sa mère, qui devait se demander pourquoi il rentrait tout nu.
Marc, combien tu as dit ?
Chapitre 14, verset 51.
Marc 14, 51.
Marc.
Oui.
Alors disons que la première mission à Salamine est accomplie, que se passe-t-il après? Et là on va resieuter la carte.
Une promenade.
Oui, une grosse promenade. D'après vous, combien de kilomètres?
Une trentaine, c'est possible?
Parfois
82. Oui.
Waouh. Quelle précision.
On peut même dire 190. Hein.
Ouais,
tu peux arrondir à 190 sans problème. Parce qu'en fait... Alors, on ne sait pas... À l'époque, il y a plusieurs voies possibles. Soit par le nord de l'île, soit par le centre de l'île, pour atteindre Paphos, soit par la côte sud. C'est-à-dire qu'il y a une longue route tout le long de la côte sud. Donc, selon les itinéraires... Vous allez trouver des chiffres différents. Mais il est peu probable qu'ils aient pris le centre parce que c'est hyper montagneux et donc beaucoup plus difficile d'accès. Le nord, c'était rallonger le bazar pour rien, à moins qu'ils aient eu l'intention d'évangéliser le nord de Chypre, ce qui serait un peu étonnant. À mon sens, ils ont pris la route la plus facile, la route côtière du sud, et la plus à l'abri d'ailleurs, pour aller directement vers Paphos. Alors, il faut savoir que à l'époque, il y a deux Paphos, l'ancienne Paphos et la nouvelle Paphos, à quelques kilomètres de distance l'une de l'autre. L'ancienne ayant été progressivement, peut-être ensablée, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, on avait construit une nouvelle Paphos avec un nouveau port auquel ils se rendent et qui était le siège du fameux proconsul qu'on va découvrir dans un moment. Donc, ils font cette traversée. Et bien entendu... 190 km, tu fais passer en une journée, même à cheval, donc tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes dans des villages, tu y passes la nuit, tu parles aux gens, et comme ils sont là pour être en mission, manifestement, ils prêchent à droite à gauche, à chaque arrêt, auprès de ceux qu'ils rencontrent, qu'ils soient juifs, païens, romains, etc. Tout est bon. Donc on peut imaginer que les 190 km se sont faits progressivement, sans trop exagérer, un certain temps, on va dire, dont on aurait bien du mal à dire combien, mais en tout cas, plusieurs jours. 190 km à faire, et ils arrivent à Paphos, grosse ville, plus proche de la côte, après peut-être une semaine de voyage, hein, s'ils ont été à la bourre, peut-être plus éventuellement, s'ils se sont arrêtés vraiment de temps en temps. Et à l'époque, c'est une ville portuaire plutôt grecque. située au nord, au sud-ouest, pardon, de l'île. Et la capitale, en même temps, c'est la capitale de Chypre, de toute l'île, ce grand port de Paphos. Et en même temps, le siège du pouvoir romain. Donc Salamine, c'est le chef-lieu de la partie orientale. Paphos est celle du... Je vais m'y retrouver. Si c'est pas oriental, c'est l'autre, enfin, peu importe. Occidental, merci.
Mais Paphos, c'est la capitale de l'île ou pas ?
Oui. À l'époque, c'est elle. Enfin, le plus grand officier romain ou fonctionnaire romain se trouve à Chypre. Point. Donc Chypre, c'est vraiment la ville capitale de toute l'île, même si l'île est divisée en deux.
Chypre, c'est l'île.
Oui. À Paphos.
C'est à Paphos, alors.
Oui. C'est ça, la capitale. Et cette ville-là, qui est une grande ville portuaire de l'époque, entretient des relations commerciales avec la Judée. Donc il y a des bateaux qui font des navettes tout le temps entre Paphos et la Judée pour vendre des produits ou acheter des produits en Judée, etc. Et là, dans cette ville, il rencontre un bonhomme. Un magicien, lui dit-on, quand même extraordinaire, je trouve, hein, personnellement. Luc va jusqu'à dire un soi-disant prophète, donc il prend un peu ses distances. Il nous précise, c'était un juif du nom de Bar-Jésus. Alors, peut-être pour l'histoire, il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de magiciens juifs, étrangement. Ils étaient réputés dans l'Empire romain pour être les meilleurs magiciens. Or, le magicien, ce n'est pas un prestidigitateur comme on le pense aujourd'hui. Ce sont vraiment des gens qui jouent à prédire ceci, cela, etc., à influencer les gens. Bref. Étrangement, ce sont des juifs. Donc, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'ils jouent de manière occulte à des soi-disant révélations liées à l'avenir des gens, au sens de la vie des gens, eux qui sont juifs.
Ben oui, c'est interdit par la Bible.
Exactement. Donc on se rend bien compte que lui, comme d'autres, ce sont des gens qui ont déjà coupé les ponts, avec le judaïsme, qui ne se considèrent même plus comme pratiquants. D'accord ? Donc un peu déjà des parias pour les juifs. Hein. Donc ils vont rencontrer un paria, un type qui n'a de nom de juif que le nom. Ça. Bar-Jésus, qui est d'ailleurs Bar-Jésus, c'est pas Ben Yeshua, parce que Ben Yeshua ce serait plutôt hébreu, là on est plutôt dans l'araméen, Bar-Jésus, ou ça peut être fils de Jésus ou fils de Josué, peu importe, c'est le même prénom en réalité. Et vous vous rappelez qu'on a déjà rencontré un de ces gars?
Oui, oui.
Au chapitre 8,
Simon,
qui était aussi un juif, hein, oui. Qui jouait comme ça à faire le petit magicien. Soi-disant prophète, donc c'est une remarque très pertinente de Luc, pour nous dire, attention, ces gars se font passer pour prophètes, mais n'en sont rien. En tout cas, pseudo-prophète en grec, c'est fort quand même. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. C'est pour ça que Luc prend ses distances. Et on apprend, verset 7, qu'il est un copain à la cour du proconsul, hein, Sergius Paulus, un homme intelligent, nous dit le texte. Hein. Alors le proconsul, ça c'est aussi un petit peu d'histoire, sinon on ne comprendrait pas tout, c'est la plus haute autorité romaine d'une province sénatoriale. Alors il y a beaucoup d'encre qui ont coulé à propos de ce texte, parce que beaucoup disaient « c'est pas possible ». Donc, c'est pas possible que cet homme ait été proconsul, puisqu'à l'époque, c'était plutôt un territoire appartenant à César et non pas au Sénat. Il y avait deux sortes de hauts fonctionnaires, ceux qui appartenaient à l'empereur et ceux qui appartenaient au Sénat de l'Empire. Deux choses différentes. Et donc, ils se sont bataillés entre commentateurs pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, on découvre qu'effectivement, César avait échangé la Dalmatie, dans l'Asie mineure, contre Chypre. Voilà. Donc il a donné Chypre au Sénat pour pouvoir récupérer un domaine qui l'intéressait en Asie mineure. Et effectivement, on a retrouvé, du point de vue archéologique, plusieurs inscriptions sur l'île de Chypre avec le nom de ce fameux proconsul Sergius Paulus, qui d'ailleurs on retrouve ailleurs en Asie Mineure, on en reparlera peut-être plus tard. Et donc on nous dit que ce bar Jésus appartient au cercle intime du proconsul. Il n'était pas rare à l'époque que les grands fonctionnaires, officiers romains s'entourent de philosophes, artistes, magiciens, pourquoi pas. Et selon Joseph, en tout cas notre fameux auteur préféré, le gouverneur romain de Judée qui s'appelait Félix comptait parmi ses amis justement un magicien juif cypriote. Donc c'est intéressant, c'est peut-être le même, hein, qui sait. Mais Luc, en tout cas, décrit ce haut personnage romain comme quelqu'un de plutôt avisé, plutôt intelligent. Comme beaucoup d'hommes de son temps, de ce rang en particulier, des gens éduqués, plutôt éclairés, on dirait qu'il semble, en tout cas c'est ce que Luc cherche à nous faire comprendre, qu'il est un peu dégoûté des cultes païens, dans lesquels il ne trouve aucun bénéfice. Idem pour les pratiques de la magie, puisque manifestement, il ne suit pas totalement ce que Bar-Jésus raconte. Hein. Bar-Jésus est toléré dans son cercle intime, mais le fait qu'il invite deux inconnus, Barnabas et Saul, dont il a dû entendre parler manifestement, puisque c'est lui qui invite, peut-être connaissait-il des gens de la famille de Barnabas, ça c'est possible aussi, et en tout cas, on ne sait pas quel est le lien. Mais il les invite, c'est ce que le texte nous dit, pour, précise Luc, entendre, non pas les connaître, mais entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelle est cette nouvelle voie qui s'offre au judaïsme? C'est là qu'on se rend compte que peut-être en ayant choisi Bar-Jésus, parmi ses intimes, il était plutôt proche des Juifs, par conséquent. Même si c'est un Juif qui se trompe, en l'occurrence, ici. Et donc, il les invite, parce qu'il est en recherche, tout simplement, sur le plan intellectuel, spirituel, et on voit bien qu'il est avisé puisqu'il n'a pas succombé totalement à la séduction de ce fameux magicien. Il désire entendre ce nouvel enseignement juif concernant le vrai Dieu, la voie messianique, tout ça a l'air de l'intéresser. Et puis on découvre alors que Elimas, lui...
Oui, Elimas, c'est encore un autre.
Alors, c'est le même, c'est notre bar Jésus. Mais là, Luc est un peu confus, il faut le reconnaître.
Et comment c'est donc le même?
C'est le même, parce qu'il s'oppose, justement, faisant partie du cercle intime. Donc, Elimas est une sorte de surnom, d'origine sémitique, plutôt arabisant. Alors, peut-être c'est un juif d'Arabie, on ne sait pas. En tout cas... la racine du mot Elimas dans le langage sémitique, surtout si c'est de l'arabe, c'est plutôt ce qui est caché. Donc, Luc essaye de faire une sorte de jeu de mots en disant ce n'est pas la traduction de Bar-Jésus, mais c'est la traduction de qui il est. Et ce qu'il est, c'est l'homme qui, comment on pourrait le dire, l'homme des choses cachées. L'homme qui prétend révéler les choses que personne ne connaît. L'homme qui prétend faire deviner ou deviner l'avenir, et patati et patata. Donc c'est un clin d'œil, mais malheureusement en grec c'est très mal rendu. Donc on a un peu confus, on essaie de comprendre, d'ailleurs beaucoup de commentateurs ont passé du temps à ça, on essaie de comprendre pourquoi tout d'un coup il n'y a plus de Bar-Jésus mais que c'est Elimas jusqu'à la fin. Voilà. Mais donc en fait c'est plus une sorte de quolibet. Voilà, hein, de l'appeler l'homme des choses cachées, qui initierait alors ceux qui ne le sont pas à une vision de la vie, de l'avenir, etc. La Tob précise d'ailleurs cela assez clairement, je trouve, dans sa petite note à ce sujet. Alors ce qui est intéressant de découvrir dans le verset 8, c'est que tous les verbes sont à l'imparfait. Et donc ça nous laisse comprendre... que l'enseignement de Barnabas et Paul auprès du proconsul s'était déjà inscrit dans la durée. Ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Il s'est passé peut-être plusieurs jours avant que, tout d'un coup, le magicien, celui qu'on surnomme Elimas, comprenne qu'il perd du crédit auprès du proconsul Sergius Paulus. Et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, au verset 8, il s'oppose frontalement. Il s'oppose frontalement aux deux hommes en cherchant par tous les moyens a détourné le proconsul de la foi qui le gagne, parce qu'il sent bien que lui, il perd pied et il ne pourra pas le récupérer. Donc ça veut dire qu'il va perdre de l'importance, peut-être même de l'argent, à ne plus être le petit copain qui conseille Sergius Paulus. Hein. Voilà. Ça vous va jusque-là ? Donc on voit un peu mieux pourquoi. Après, qu'est-ce que nous avions ? Pourquoi Luc change de nom ? Change le nom, pardon, de Saul en Paul, à ce moment précis de l'histoire. Oui, parce que tout d'un coup, notre verset 9, il commence de manière très abrupte. Alors Saul, oh, plutôt Paul, hein, désolé, on va changer pour une fois. Mm-hmm. On peut se demander pourquoi Luc opère un tel changement. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ?
Mais à partir de ce moment-là, il va tout le temps parler de Paul.
Tout à fait, jusqu'à la fin des Actes, ce sera Paul.
Latin, non,
alors, c'est son nom romain, latin, ça c'est clair.
Paul,
alors, il y a eu beaucoup d'élucubrations des commentateurs sur le changement de nom. Mais...
Et puis, est-ce que Saul, c'est pas plus un prénom juif que Paul, plus un prénom...
Exactement. Oui. Donc, Shaul, c'est Saul. Hein. Saul, c'est du français. Hein. Oui. Shaul, c'est de l'hébreu. Et Shaul, ça veut dire... Alors, là, on peut dire que ça ressemble bien au Paul qu'on a connu, au Saul d'autrefois. Le désiré. Celui qu'on désire, celui qu'on prie de bien vouloir, tu sais, c'est pas rien. Effectivement, il ne se prenait pas pour une... pendant longtemps, en tout cas, hein, voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle, c'était quand même le grand Shaul. Hein. Voilà, donc, étrangement, Luc nous propose de changer ce vieux prénom juif en son prénom romain, de citoyen romain. Car tous les Romains, s'ils sont citoyens, doivent avoir trois prénoms romains. Là, on n'en connaît qu'un, Paulus. D'accord ? Et Paulus, est-ce que vous savez ce que ça signifie en latin ? Le petit, le faible.
On a changé.
C'est pas innocent, je trouve, c'est très intéressant. Au moment où il commence, lui, enfin, sa mission, son apostolat parmi les gentils, parmi les païens, change son... Évidemment, il est en plein territoire dominé par Rome. Hein. Donc oui, il change, enfin, Luc change en tout cas, son prénom juif en un prénom qui est son prénom latin, en lui rappelant qu'il doit peut-être être un petit peu plus humble dans sa manière de fonctionner dorénavant.
Et puis, il va s'adresser à des païens.
Exactement. Oui. Et notamment aux Romains, pour la plupart. Oui. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois raisons. Confirmer l'appel de Paul, l'appel à l'apostolat missionnaire parmi les païens de l'Empire romain. Parce que où qu'il aille désormais, ce sera l'Empire romain. Il ne va pas sortir ailleurs. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est la raison sans doute première pour laquelle on va utiliser le prénom romain à partir de maintenant. Deuxio, ça valide peut-être le fait qu'à partir d'ici, Paul va devenir le premier. Donc, si vous observez bien la suite des Actes, à part une exception, au lieu de dire Barnabas et Saul, on va dire Paul et Barnabas. Donc, c'est comme si on lui disait « Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, à partir d'ici, c'est toi qui deviens responsable de l'enseignement auprès des païens. » Donc, c'est pas rien. C'est comme si on validait ce fameux apostolat auquel il a été appelé, rappelez-vous, des années avant, et pour lesquels on n'a pas vu, nous, beaucoup de fruits jusqu'à présent, à part Antioche, hein, le coup de main à Antioche, ok. Mais en dehors de ça, une mission propre à Paul, il n'y en a pas eu. Et voilà que ça tourne, le vent tourne, et tout d'un coup, il va devenir l'apôtre des gentils, avec un prénom gentil, comme ça tout le monde s'y retrouve, au même titre que Pierre l'avait été pour les Juifs. Lui, sa carrière est tracée. Une troisième raison, je pense, intéressante, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, le rappeler à l'humilité. Donc c'est comme si on disait désormais, l'humilité doit primer dans ta manière de fonctionner, dans ton ministère. Tu n'es plus le grand Shaul désiré qu'on écoute, etc., qui est celui qui connaît tout, qui sait tout. Désormais, tu es l'apôtre des gentils et tu vas commencer par le montrer clairement, en étant humble. Et Dieu sait si, quand on lit les épîtres pauliniennes, on découvre un Paul tellement différent de ce qu'il était au temps d'Étienne. Hein, rien à voir, quoi. Voilà. Et il se trouve donc qu'il y a cette confrontation, justement, entre ce fameux magicien et les deux hommes, et que Paul va avoir une révélation divine. On nous dit rempli d'Esprit Saint. Une inspiration, en tout cas, venant de Dieu. Et ça, c'est interpellant et intéressant, que ce n'est donc pas une amertume personnelle. Ce n'est donc pas « je règle mes comptes avec Elimas ». Je n'ai pas de colère envers Elimas, mais il s'adresse à lui parce que Dieu, lui, ouvre les yeux. On ne sait d'ailleurs pas si la scène s'est déroulée devant le proconsul. On peut en douter peut-être, mais quoi qu'il en soit, elle va quand même contribuer à la conversion du proconsul. On verra ça au verset 12. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sur l'inspiration d'Esprit Saint, que dit-il à cet homme? C'est quand même des choses un peu fortes, je trouve.
Homme plein de ruse et de méchanceté. Fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien.
Voilà.
Ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur?
Alors on a donc, on pourrait parler de chef d'accusation ici. En un verset, on a 1, 2, 3, 4 chefs d'accusation. Le premier, c'est toi qui es pétri de ruses et de manigances, de fraudes, si vous voulez. C'est un peu la condamnation de la séduction, condamnation de la confusion. Se prétendre sage, soi-disant prophète, rappelez-vous, éclairé, et puis finalement égarer les autres sciemment. Parce que c'est pour une question de pognon et d'aura et d'égocentrisme, si vous voulez, qu'il fait ce travail. Et donc ici, on sait qu'en plus, il essaye d'empêcher Sergius Paulus d'accéder au salut. Il fait tout pour freiner la prédication des deux autres, etc. Premier chef, donc. Deuxième chef, fils du diable. Pourquoi? Un peu facile, ça, non? C'est qui le diable? C'est le menteur. C'est celui qui divise, etc. Donc, parce que c'est bien diable qui est utilisé. Diable, c'est celui qui ment. C'est le père du mensonge. Donc, il lui dit, toi qui travestis la vérité comme le père du mensonge, rappelez-vous la tentation de Jésus au désert, hein, l'autre qui dit, voilà, donc il dit, si, mais en fait il déforme la réalité. Ensuite on lui dit, ennemi juré de la justice, sous-entendu la justice de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la justice de Dieu? À l'heure où on parle ici, Dieu a ouvert la porte aux païens, à tous les païens, y compris les Romains, qui sont pourtant les grands méchants du moment. Ennemis jurés de la justice, sous-entendu, de la justice de Dieu qui veut sauver les hommes, qui veut tous les sauver. Et puis une dernière, alors, pour la route, déformer la rectitude des voies du Seigneur, déformer tout ce qui est droit, si vous voulez, falsifier la droiture des plans du Seigneur qui œuvre pourtant au salut des hommes. Donc les termes intéressants, c'est la petite question qui est posée à la fin. Ne vas-tu pas cesser de ? Et cette formulation nous indique qu'Elimas n'en est donc pas à son premier coup. Parce que si ça avait été que pour l'histoire du proconsul, il n'y avait pas besoin de cette mention. Ne vas-tu pas cesser d'être tout ça, tout ce qu'on a dit là ? Or, ça veut dire quoi ? Qu'Elimas, qui était déjà totalement hors cadre par rapport à son propre judaïsme d'origine, est maintenant devenu, depuis un certain temps, on ne sait pas combien de temps, un opposant au courant messianique. Donc, non content d'avoir coupé les ponts avec le judaïsme, en plus il s'attaque à tous ceux qui prêchent la nouvelle voie, parce que peut-être la nouvelle voie a un certain succès, même avant même que Paul et Barnabas soient à Chypre. Donc ça ne fait pas du bien. Alors tu penses, si en plus ils viennent au cœur même du cercle des intimes pour convaincre Sergius Paulus de changer et de devenir messianique, ça c'est la folie totale, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. Mais alors, voilà, ce ne sont pas que des accusations.
Oui, pourquoi ne veut-il pas qu'il devienne messianique? Parce qu'alors on n'aura plus recours à lui, on ne payera plus pour avoir...
Oui, et peut-être même on lui interdira. Bon, ça, c'est, si le proconsul prend la décision que c'est fini, les petits tours de magie, va voir ailleurs si on y est, des camps de Chypre, c'est ce qui... Donc,
de toute façon, question d'argent,
il perd des pieds, exactement, il perd son aura, son pognon. C'est vrai que c'est peut-être pas rigolo de se convertir, d'être obligé de se convertir à autre chose. Alors, donc, on a, au verset qu'on vient d'évoquer, 10, toutes les accusations. On règle bien les comptes, voilà, le péché, c'est ça. Et au verset 11, on a quoi? Une sorte de jugement symbolique prophétique. Ouais, je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Alors nous, on peut dire que ça, c'est quand même scandaleux. Hein. Le gars, bon, il va devenir aveugle. C'est quand même moche, quoi. Alors, non seulement il perd son boulot, mais en plus, il va devoir faire la manche. Hein. Bon, non, mais soyons sérieux maintenant.
Mais c'est ce qu'il est, il est aveugle.
Oui,
finalement, oui.
Exactement. Finalement, donc, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un châtiment au sens fort du terme, ou est-ce qu'il s'agit d'un avertissement? C'est-à-dire la révélation que tu es aveugle. Ce que tu fais, c'est être aveugle. Toi qui es juif d'origine, et en plus, tu t'opposes à la nouvelle voie. Donc, au fond, on découvre avec Luc que celui qui voulait aveugler les autres au moyen de ses pratiques et de ses croyances va lui-même devenir aveugle. Heureusement, le texte nous le précise, jusqu'à nouvel ordre. Pour un temps. C'est très intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Que Dieu ne vise pas la punition ad vitam aeternam. Dieu vise un châtiment qui fasse réfléchir. Un peu comme Paul, d'ailleurs, rappelons-nous, Saul, sur le chemin de Damas, aveugle pendant 3 jours, pour se remettre en question. Et donc, on peut se dire, encore une fois ici, malgré le châtiment, on perçoit la bonté de Dieu à l'égard des pécheurs, et notamment de ceux qui sont d'origine juive, parce qu'il a de la compassion pour son peuple, et qu'il ne veut qu'aucun se perde, évidemment. Et donc, c'est une sorte d'avertissement solennel, ce qui lui arrive, un appel à la repentance, reviens vers Dieu, toi qui es d'origine juive. Aveuglement graduel, apparemment, d'après le grec, qui va rendre Élymas, pendant un certain temps, dépendant des autres, c'est ce que nous dit le verset. Hein. Il va devoir tendre la main pour trouver quelqu'un qui veut bien l'embarquer vers le droit chemin. Oui, parce que lui, il n'est pas aveugle de naissance, hein. Donc il ne sait pas se diriger. Il est aveugle du jour au lendemain, bah, comment on fait pour s'habiller, se nourrir, traverser la rue, etc. Donc, on pourrait presque dire que le châtiment, finalement, c'est l'humilité, obligé à l'humilité. Lui qui disait, moi je sais, moi je vais vous dire ce qu'il faut, là il est obligé de quémander de l'aide pour pouvoir survivre. Lui qui cherchait à briller, mais il en est empêché. Empêché de travailler, donc un peu d'appauvrissement quand même, empêché de nuire aux autres, sous-entendu au salut des autres. Hein. Alors le texte ne nous dit pas s'il a retenu la leçon, s'il s'est retourné vers Dieu, mais en tout cas il laisse entrevoir l'espoir d'un salut. C'est-à-dire que Dieu, là aussi, ne ferme pas la porte à Élymas. Il suffit qu'il revienne à Dieu, qu'il reconnaisse son erreur, et il fera partie de ceux-là même qu'il essayait d'égarer. Intéressant, non? Parce qu'effectivement, on peut faire une lecture très rapide en se disant « Paf, il a reçu une claque, là, et puis, tant pis pour lui. » Mais non, c'est pas tout à fait ce qui se passe, quoi. Et voilà que le verset 12, alors, nous montre une chose, et moi j'ai été très interloqué par ce verset, je veux dire. Voyant ce qui s'était passé, le proconsul devint croyant. Pourtant, est-ce que le verset ne dit que ça? Voilà. Donc, on se rend bien compte. On se rend bien compte que ce qu'il a emporté, ce n'est pas l'espèce de miracle prophétique, l'aveuglement d'Élymas, mais ce qui lui a été enseigné, ce qu'il a entendu de Paul et Barnabas. Alors, c'est un peu comme si Luc nous disait, suite à l'enseignement de Paul et Barnabas, oui, je vais l'appeler comme ça, suite à l'enseignement de Paul et Barnabas, frappé par ce qui vient de se passer, qui montre qui a l'autorité, finalement, qui révèle vraiment Dieu, ben, celui qui impose l'aveuglement. Donc sous-entendu, Dieu lui-même, et Paul en particulier, porteur de cette vérité, et du coup, c'est ce qui provoque le déclenchement. Donc le texte nous dit bien en grec qu'il devient croyant. C'est-à-dire qu'il devient messianique. Pagano-messianique, si vous voulez, hein, puisqu'il n'est pas d'origine juive. Et c'est quand même assez intéressant, moi je trouve, de voir combien un homme aussi important dans l'Empire, en tout cas, parce qu'il est quand même le chef d'une province, hein, c'est pas juste un petit fonctionnaire, c'est la plus haute autorité de toute l'île de Chypre, devient croyant, et on sait historiquement que l'île de Chypre, à peine au deuxième, fin du deuxième siècle, était carrément chrétienne. Donc toute l'île a basculé vers le christianisme. Ça, c'est quand même formidable, quoi. Donc on se rend bien compte qu'il y a eu un vrai travail. Et ce travail est peut-être consécutif à l'ouverture liée à la conversion du plus grand qui aurait pu empêcher, justement, la propagation de cet évangile. Donc on voit que l'appel au voyage, le départ vers Chypre, n'est pas juste un truc au hasard. Encore une fois, Dieu est bien derrière. Et Dieu utilise tous les éléments. Et Dieu va faire basculer les choses, en tout cas, pour l'avenir de cette île et de son église. Mais on peut ajouter encore un petit détail, si vous voulez, qui n'est pas dans le texte. La conversion de ce proconsul, qui semble avoir été ailleurs encore dans l'Empire romain avec de hautes charges, on peut estimer que s'il sait maintenant ce que Paul et Barnabas veulent faire, il leur a ouvert les portes. Donc le départ vers la Pamphylie n'est peut-être pas simplement la voie la plus pratique pour rejoindre la côte, la plus courte, mais peut-être tout simplement la porte ouverte par le proconsul lui-même pour qu'il soit reçu convenablement dans les provinces d'Asie mineure. Alors, on ne parle pas de sauf-conduit, mais on peut dire, moi, je suis un pote au proconsul Sergius Paulus, quand même, ça doit le faire, quelque part, quoi, tu vois. C'est quand même pas rien. Donc, on peut imaginer que ça va être un plus pour la suite de la mission, dont on a vu sur la carte, ils avaient quand même fait encore un joli périple en Pamphylie et au nord de cette province-là. Voilà, un peu pour le texte du jour. J'ai trouvé ça assez passionnant, assez vivant, assez incroyable aussi. D'où quelques applications, peut-être. Est-ce que vous en avez ? Bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler mes applications. Cette fois-ci, en tout cas.
Quand le Seigneur nous envoie quelque part, on ne sait pas toujours où on va. Hein. Et puis on voit au fur et à mesure que le plan est là, quoi.
Oui. Lui, c'est...
Exemple, quand je suis arrivée ici en Belgique, arrivant des Cévennes, je me demandais qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays. Et puis je me rends compte que plein de richesses, plein de connaissances, beaucoup, on a eu des épreuves, mais qui nous ont fortifiés. Mmh. Et donc là, c'est...
Oh, on aurait pu rester peinard en Cévennes.
Oh, tranquille dans les
Cévennes. Pasteur de paroisse.
Pasteur dans les Cévennes, il n'y a rien de plus simple.
Oui.
Mais là, voilà, on a été bien bousculés et je dois dire que ce sera à refaire, on le referait.
Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais on a commencé le travail en Belgique, c'était pour
les sortants de prison.
Diriger un foyer de sortants de prison en plein cœur de Bruxelles, dans les Marolles. Le lieu privilégié pour ce genre d'activité.
Et comment vous avez connu ça et...
On nous a demandé de venir, tout simplement. Et puis nous, on a été assez naïfs pour dire oui.
Il n'y a pas de problème.
Et c'est là que... On a découvert l'envers du décor, c'est-à-dire la vie, le mal.
Oui.
On a eu quand même des gars qui avaient fait cabane, hein. Des gens qui avaient fait 15-20 ans de prison quand même.
Et vous avez quel âge à l'époque ?
Très jeune. 25.
Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis naïf.
Oui,
là, nous, c'était le Seigneur, c'était tout beau, tout.
Voilà.
Bon, après, on s'est vite rendu compte, c'était pas si simple que ça. Et donc, c'est là que j'ai repris des études, moi, en Belgique, à l'UCL, en psycho, parce que je voulais comprendre dans quoi on avait foutu les pieds, quand même. Hein. Il suffit pas d'avoir Jésus au cœur pour que les choses changent dans la vie des gens.
Ouais.
Mais en même temps, on regrette pas ce qu'on a fait là, quoi. Non. Puis après, on s'est dit, on va peut-être repartir. Ouais. Ben non, finalement. Tout à fait qu'on est resté en Belgique, c'est assez bizarre. Puis qu'on se retrouve là ce soir, autour de la table, pour parler des actes des apôtres. Donc ça, c'est une bonne application, après.
Oui.
Mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on obéit toujours aux directives de Dieu lorsqu'il nous appelle ?
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas. J'aurais du mal à dire oui. C'est parfois, on ne perçoit même pas que c'est lui qui appelle. Quoi.
Mais ouais, c'est pas toujours
clair.
C'est C'est pas si simple.
Ce serait trop simple.
Bon, moi, ce qui m'a séduit dans le texte, c'est que je suis assez admiratif quand même de ces deux hommes. C'est quand même, tu as une voie toute tracée. Il y en a un qui vient de Jérusalem, l'autre de Tarse en Cilicie. Ils ont fondé une grosse église pagano-messianique à Antioche. Il y a encore plein de boulot à réaliser, puis ils acceptent de partir dans l'inconnu total. Enfin, Chypre n'est pas trop inconnu pour Barnabas, mais quand même, qu'est-ce qu'on va y faire et où ça va nous mener finalement. Donc je suis assez admiratif du courage de ces premiers missionnaires de l'histoire, dans le sens que, à l'époque, je ne sais pas si on se met dans les circonstances du premier siècle, n'importe quel voyage était extrêmement dangereux. On pouvait perdre la vie à chaque voyage, que ce soit par les truands, les brigands, que ce soit par les naufrages, que ce soit par accident, enfin, peu importe, tellement de choses incroyables. Donc, eux partent courageusement, et puis on voit que dès le premier voyage missionnaire, c'est pas juste pour s'adresser aux Juifs. Si c'était que des messianiques, ça serait sympa, mais ils s'attaquent aux synagogues des judaïsants, puis... ils n'ont pas peur de témoigner de leur foi auprès des plus importants, des politiques de l'époque. Et d'ailleurs, Paul, il va le faire plusieurs fois dans sa carrière. C'est-à-dire, même si c'est des gens très versés dans les Écritures, très convaincus, très consacrés, c'est quand même pas rien. Moi, je sais que j'ai rencontré de temps en temps quelques autorités comme ça dans ma carrière, notamment prince, princesse et compagnie en Belgique. Tu ne sais pas trop ce que tu peux dire, pas dire, on peut entamer un sujet ou pas, est-ce qu'on peut lui serrer la pince ou pas. Voilà. Donc moi, je découvre des gens extraordinaires. Heureusement pour Paul, lui, est citoyen romain. Donc il connaît peut-être un peu les conventions. Mais quand même, être invité à la cour du plus haut fonctionnaire d'une province pour venir prêcher, c'est peut-être un piège.
Ah ouais,
ça pourrait.
Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça aurait pu. Ah, venez un peu nous parler de. Et pac ! Petit retour de manivelle. Ben non. Donc ils n'ont peur de rien. Ils s'adressent à ces grands hommes d'État comme si c'était des gens qu'ils connaissent depuis toujours. C'est incroyable. Moi, je tire mon chapeau, quoi. Et puis par rapport à Elimas, est-ce que vous avez appris quelque chose ? Pas la limace. Hein.
Il avait des cornes.
Ben, moi, je trouve que ce qui ressort, c'est quand même que Dieu châtie Dieu pour sauver.
Ouais. Mm-hmm.
Ça, c'est un truc frappant. Et ce n'est pas le seul texte, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament. On découvre que quand Dieu châtie, ce n'est pas pour punir, mais c'est pour sauver. Alors, il y en a qui s'entêtent dans leur bêtise, évidemment, puis qui ne le seront peut-être pas. Et puis, il y a ceux qui décident, ça me parle, que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu m'avertisse, que Dieu me rende aveugle, me fasse voir que c'est ça que je fais. Ce que je produis, c'est de l'aveuglement. Ce n'est pas du tout de l'éclairement pour les autres. Et si je m'en rends compte avec cette espèce de châtiment, ben peut-être que je peux devenir une lumière, quelque part. Une vraie, cette fois-là. Porteur de la bonne nouvelle du Christ. Ce qui est quand même pas rien, quoi. En plus, s'appeler Bar-Jésus, fils de Jésus, puis faire le pitre, pas chouette, hein.
Je trouve que ça m'est
voilà, bien. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé.
L'action du Saint-Esprit, il faut suivre.
Voilà.
Que bon... Moi, je suis de plus en plus confrontée pour le moment, que j'ai fait beaucoup, me semble-t-il, pour Jésus, et oser, dans des milieux athées, accompagnés, en étant moqués encore mardi dernier, mais ça porte peu de fruits. Se décarcasser, être témoin pour Jésus, si, c'est le temps suivant. L'Esprit Saint.
Moi, je ne suis pas sûr que tu aies raison.
Oui.
Mais peut-être qu'on en a déjà parlé une ou deux fois.
Je ne sais pas.
Mais dans le sens que.
Ça fait pas si, dire si que je vois, pas le faire,
si je vois ce qu'on a fait, nous, pendant 5 ans, avec des tolards, par exemple, On en a vu 400 ou 500 sur les 5 ans, une centaine par année à peu près. Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'on a vraiment fait le job? Est-ce que nos témoignages ont servi à quelque chose? Ben pour une grande partie, on n'en sait rien. Par contre, je peux te dire que de ces 400 ou 500 personnes, on sait par l'histoire et aussi par eux-mêmes parfois que certains se sont convertis.
Pas directement.
Mais pas directement. Pas au moment où on était occupé avec eux.
C'est quand même incroyable. L'œuvre de Dieu continue.
C'est-à-dire que ce que tu sèmes, ce que tu sèmes et que tu penses ne pas être performant, tu n'en sais rien. Parce qu'en fait, Dieu s'empare des choses et que bien souvent, des gens dans leur détresse finissent par se dire « Un jour, cette femme m'a dit que... »
Oui, voilà, c'est vrai.
Et j'aurais dû écouter.
Mais en même temps... Enfin, je vois avec ma fille qui est plus loin que moi, je veux dire, et dans la foi pour moi, elle va rencontrer quelqu'un, elle essaie... Alors, elle rate aussi, hein, mais elle essaie de plus en plus de prier avant, avant de dire quoi que ce soit à la personne. Elle bénit la personne intérieurement, elle demande à Dieu, au Saint-Esprit, qu'il lui révèle de comment, est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il faut se taire, et que dire. Et ça a encore plus de fruits. Mais bon.
Donc tu vas essayer d'appliquer ce qu'elle
fait. Oui, elle a...
Non, mais pourquoi?
Elle est un petit peu,
oui. Je pense qu'on ne sait jamais. Enfin, quand le Christ appelle,
en recevant la... Comme je reçois aussi la prière de liberté, là, hein, qu'une protestante de Charleroi en traduisant un livre en anglais, moi je ne sais plus, j'ai pas retenu son nom, mais ça va dans le sens où on écoute Dieu, ce qu'il veut aussi changer dans la personne, quoi, et ce qu'il y a là derrière, pourquoi il est ainsi, tout le bazar d'hérédité et compagnie, et donc, dans ces trois prières que j'ai reçues, ça va aussi dans ce sens-là.
C'est pas parce que tu vois les fruits tout de suite que ce sont des fruits durables. Tu vois?
En plus.
Parce que ça peut être quelque chose, un feu...
Ça peut être
la paille. Et toi, tu as peut-être semé des choses qui sont plus profondes et qui vont faire réagir et qui sont basé sur quelque chose de solide. Ça, on ne sait pas.
Non, il y a ceux qui ont... Il y a un vrai... Moi, je ne me sens pas évangéliste, par exemple. Je ne me sens pas capable d'enseigner n'importe qui, le quidam que tu rencontres dans la rue, et de l'amener à Jésus. C'est pas mon job. Je pourrais participer avec quelqu'un, mais je ne suis pas évangéliste né. Je ne suis pas appelé à ça.
Il y a des gens qui font ça très bien.
Par contre, décortiquer le texte, ça, je peux faire.
Mais voilà. Et qui ne savent pas décortiquer. Tu vois? Des gens qui ils ont une facilité pour parler aux gens.
Moi, j'ai connu des gens qui étaient extraordinaires pour ça. Notamment notre ami Gilbert, capable dans n'importe quelle circonstance de créer du lien. Et puis d'amener Jésus sur le tapis. Moi, je ne sais pas.
Je
l'observais à chaque fois. Comment il fait, là? Et puis les gens ne le rejettent pas, quoi, tu vois. C'est ça qui est fou. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment appelés avec un vrai ministère à ce niveau-là, que moi, je prétends ne pas avoir, en tout cas.
Ou le jour où tu l'auras, ce sera un bon essai.
Mais maintenant, si on me demande de témoigner de pourquoi je fais ci, là, je n'ai pas de souci. Mais entamer une démarche, tu vois, une stratégie d'approche, je suis nul. Alors déjà, socialement, je suis nul, d'après ma femme. Il y a longtemps qu'elle me le dit. Je ne sais pas vite me mettre dans le bain. Heureusement qu'elle est là, parce qu'elle est capable.